Bienvenue, il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe et vous donne la parole dans 10 minutes. Vos questions sur l'actualité, dans 30 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne. Mais d'abord le journal international. Bonjour Gaëtan Planel.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Des caméras de surveillance volées, cassées dans des villages en Cisjordanie occupés. Israël est pointé du doigt. Reportage à Ramallah dès le début de cette édition. On est aussi en RDC, où le Sénat a levé hier les immunités de l'ex-président Kabila. Et puis on est à Cannes, dernier jour de compétition, au festival de cinéma avant le palmarès demain. 16 morts cette nuit à Gaza selon la défense civile locale, ça s'ajoute aux 52 victimes recensées hier. Depuis quelques jours, l'armée israélienne intensifie un petit peu plus encore ses frappes, disant vouloir prendre le contrôle total de la bande de Gaza. Cette guerre, elle n'apportera pas de solution durable, dit le chef de l'Organisation mondiale de la santé, qui appelle Israël à faire preuve de pitié et qui dénonce l'utilisation de la nourriture et du matériel médical, leur blocage en l'occurrence, comme une arme. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, l'armée israélienne, qui mène là-bas aussi une opération depuis plusieurs mois, aurait retiré des caméras de surveillance dans des villages palestiniens. C'est l'Association pour les droits civiques en Israël qui a remarqué ce phénomène et qui s'en inquiète. Explication depuis Ramallah d'Amira Swilem.
C'était leur façon de se protéger des attaques de colons. Plusieurs villages palestiniens ont fait le choix d'installer des caméras de vidéosurveillance. Parfois, des ONG leur ont offert de quoi s'équiper. Rutschaer est avocate auprès de l'Association pour les droits civiques en Israël. Elle dénonce des assauts contre ce matériel.
Ces derniers mois, il y a eu des cas de colons, de soldats ou même de policiers qui sont allés dans des villages ou des localités équipées de caméras. Ils les ont prises avec les images qu'elles contenaient. Parfois, ils les ont cassées.
L'absence de caméras rend désormais les villageois palestiniens plus vulnérables, selon Rutschaer.
Les colons vont avoir une impression de liberté. Ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent commettre des violences, faire ce qu'ils veulent désormais, parce que les Palestiniens n'auront aucune preuve de ce qui leur est arrivé. Ça sera parole contre parole. Et dans ce cas, la parole d'un colon juif israélien semble avoir plus de valeur.
Contactée, l'armée israélienne n'était pas en mesure d'apporter des éclaircissements sur ces incidents. Amira Swilem, Ramallah, RFI.
Et Benjamin Netanyahou tourne le dos à la justice de son propre pays, malgré l'interdiction que lui avait faite la procureure générale. Le Premier ministre a nommé hier le prochain chef du Shin Bet, l'agence israélienne de sécurité intérieure, pour remplacer le démissionnaire Ronen Bar. Il a choisi le général de division David Zinni, actuellement à la tête du corps d'état-major général. C'est la fin d'un litige qui aura duré plus d'un demi-siècle. Le Royaume-Uni et l'île Maurice ont signé un accord hier. Ils visent à rétrocéder l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Londres conserve quand même un bail de 99 ans sur l'une des îles, l'île de Diego Garcia. C'est là que se trouve une base militaire américano-britannique. Pour rappel, Maurice avait obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1968, mais les Britanniques avaient depuis conservé le contrôle des îles Chagos. Dans les années qui ont suivi, près de 2000 habitants de l'archipel avaient été expulsés, notamment à Diego Garcia. Le verdict était sans appel hier au Sénat en République démocratique du Congo. 88 voix pour, 5 contre et 3 abstentions. Les sénateurs ont levé les immunités parlementaires de l'ex-président Joseph Kabila, lui-même sénateur à vie. C'était une requête de la justice militaire qui souhaitait poursuivre l'ancien chef de l'État et qui va donc pouvoir le faire. Elle qui l'accuse de participation à un mouvement insurrectionnel, de trahison, intelligence avec l'ennemi et participation aussi à des crimes de guerre. En exil, il est en fait soupçonné de complicité avec le mouvement rebelle AFC M23, correspondance à Kinshasa de Pauline Azidi.
Le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur.
C'est avec une écrasante majorité de 88 voix pour, 5 voix contre, que le Sénat autorise donc la justice militaire à engager des poursuites contre l'ancien président Joseph Kabila. Un jour historique pour le sénateur Jean Tshisekedi.
Ce qu'on lui reproche, c'est très dangereux pour notre nation. Ce qu'on lui reproche, ça touche au cœur pour tout Congolais. Nous sommes là pour prêcher l'exemple. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons prêché par l'exemple.
Mais l'honorable Jules Lodi met en garde, cette levée des immunités n'est pas pour autant un gage de culpabilité.
Il n'est pas condamné. Je rappelle qu'il jouit de la présomption d'innocence parce que
lorsqu'il s'agit de poursuites, notre Parlement, pour ne pas dire la Chambre haute, n'a pas qualité d'examiner les éléments constitutifs des infractions. Pour nous, est-ce que l'auditeur général est en droit de demander à ce qu'il puisse aller se justifier parce que personne n'est au-dessus de la loi? La réponse a été oui. Et donc aujourd'hui, notre attitude est de dire plus jamais alors, aucun Congolais ne sera au-dessus de la loi.
Si lors du scrutin, un bulletin secret, 5 élus ont voté contre cette levée des immunités, aucun sénateur n'a pris la parole pendant les débats pour défendre l'ancien président. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Début des négociations dans un petit peu moins de 3 heures. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis, 5e fois qu'ils discutent depuis le mois dernier. Le sujet n'a pas changé, hein, le nucléaire iranien, le point de blocage non plus n'a pas changé. L'enrichissement d'uranium, cette fois, ils discutent à Rome. L'Italie, co-signatrice d'une lettre ouverte avec 8 autres pays, notamment l'Autriche, la Belgique ou encore la République tchèque. Une lettre dans laquelle il demande d'une même voix à repenser l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous devons rétablir un juste équilibre pour répondre aux défis auxquels nous faisons face, peut-on lire. Et pour eux, l'évolution de l'interprétation de cette convention par la Cour européenne des droits de l'homme a, dans certains cas, limité, je cite, notre capacité à prendre des décisions politiques dans nos propres démocraties. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a dit oui, hier, oui, au méga projet de loi budgétaire de Donald Trump. L'idée, c'est en fait qu'il puisse concrétiser certaines promesses phares de sa campagne, en particulier la prolongation des gigantesques crédits d'impôt de son premier mandat. Les sénateurs doivent encore donner leur feu vert, mais ça inquiète d'ores et déjà plusieurs analystes qui craignent que cela ne vienne creuser davantage encore le déficit du pays. Alexandre Baradez est responsable de l'analyse marché chez IG France.
Les marchés considèrent que par rapport au niveau actuel d'endettement des États-Unis et par rapport à ce que comporte ce projet de loi de finances qui inclut plusieurs milliers de milliards de dépenses supplémentaires dans les années qui viennent, eh bien qu'il y a un risque pour la trajectoire de la dette américaine. Et c'est ça que les marchés aujourd'hui traduisent en fait. Hein, les marchés, ce sont les prêteurs notamment, c'est ceux qui prêtent aux États-Unis. Et ils continuent de prêter aux États-Unis, mais ils demandent eh bien des taux d'intérêt plus chers en retour. Et je pense qu'il y a, c'est un phénomène de plusieurs choses, si vous voulez. C'est à la fois les questions de budget, de dépenses, mais c'est aussi la question du niveau des taux d'intérêt de la Fed. Les mesures commerciales, la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre à peu près tous ses partenaires commerciaux, fait que la Fed ne peut pas baisser les taux. Et le fait qu'elle ne puisse pas baisser les taux actuellement et qu'elle ne fera peut-être pas avant plusieurs mois, ça ne permet pas aux taux non plus de se détendre.
Des propos recueillis par Altin Lazage. À bientôt l'heure de remballer le tapis rouge à Cannes. Le palmarès de la 78e édition du Festival de cinéma sera présenté demain. Encore 2 films à voir ce vendredi dans la compétition officielle. Mastermind de l'américaine Kelly Richard. Et puis le 13e long métrage des frères Dardenne, ça fera 22, le compte y sera, tous les films auront été projetés. Hier, c'est le réalisateur iranien Saïd Roustaï qui est venu sur la croisette présenter Woman and Child. Guillaume Thibault l'a vu, il est notre envoyé spécial à Cannes.
Ce film est arrivé à Cannes avec une polémique. Salué ici en 2020 pour Layla et ses frères, Saïd Roustaï a été condamné à 6 mois de prison à son retour en Iran. Cette peine n'a jamais été appliquée et le réalisateur a cette fois demandé des autorisations au pouvoir pour tourner Zano Bachet, Femme et Enfant. Saïd Roustaï, critiqué par certains, soutenu par d'autres, notamment le réalisateur Jafar Panahi, s'est exprimé à la sortie de la projection au Théâtre Lumière.
Merci beaucoup, je suis vraiment excitée d'être ici, extrêmement émue. Je veux vraiment dédier cette séance à tous mes collègues qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui. J'espère vraiment qu'on puisse tous travailler ensemble, côte à côte, et faire des films ensemble.
Le film « Femme et enfant », c'est l'histoire de Manaz, infirmière d'une 40aine d'années, qui casse tout ce qu'elle touche, son couple, ses enfants, ses proches. Sans être frontal, le réalisateur Saïd Roustaï cherche visiblement à montrer que le régime iranien, le patriarcat, sont à l'origine de ce mal, de cette oppression sur les femmes qui, de fait, ne peuvent s'exprimer qu'en hurlant, long, édulcoré. Avec « Femme et enfant », Saïd Roustaï a fait ses choix. Ne pas attaquer frontalement le pouvoir des mollahs, avec cet argument, son envie importante pour lui que ses films soient vus par les gens de son pays. Benjamin Availlou, Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
À nos envoyés spéciaux de RFI à Cannes, avec qui on suivra donc le palmarès de cette 78e édition. Il sera dévoilé demain. Il est 10h10 à Paris. Juan Gomez, c'est à vous. Vous donnez la parole aux auditeurs.
Comme tous les jours, évidemment, à 8h10, temps universel. Merci infiniment, Gaëtan Plenet. Très bonne journée. Restez avec nous dans 30 secondes. Vous avez